الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc maintenant on va parler des conflits qui existent puisqu'on a choisi le conjoint, on s'est marié et comme il faut être réaliste, tout n'est pas rose. Il y a des conflits. Et comme je vous l'ai dit ce matin, celui qui est intelligent, c'est celui qui tire des leçons de ce qui arrive aux autres. De ce qui arrive aux autres, c'est celui qui ne recommence pas, ne refait pas les mêmes erreurs que ses semblables. Personne n'est parfait. Il n'y a pas d'époux parfait ni d'épouse parfaite. Le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a connu un conflit avec ses épouses, qui est cité dans le Coran, dans la sourate Al-Ahzab, lorsque ses épouses lui ont demandé de dépenser encore plus. Donc, elle voulait vivre dans un peu plus de confort. Pour nous, c'est... Je veux dire, elle ne vivait pas du tout dans le confort. Hein. Mais il est tout à fait naturel pour un être humain de toujours chercher à améliorer son train de vie. Donc, elles ont demandé au prophète, alayhi salam, de faire largesse dans les dépenses, mais le prophète n'avait pas les moyens et il avait une autre mission. Et Dieu est intervenu pour trouver la solution au problème, pour donner la solution plutôt. Et on sait tous que le prophète a mis ses épouses en quarantaine pendant 29 jours. Donc on voit très bien que le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, a connu donc, une problématique avec ses épouses. Il y en avait d'autres, mais elles n'étaient pas importantes comme celle-ci. Alors que pensez-vous de nous? Ainsi, l'erreur est inhérente à la nature humaine. Les conflits sont aussi, dans la plupart des cas, inhérents à la nature humaine. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'être humain est capable de surmonter les problèmes. Il est capable d'éviter des conflits et de gérer des conflits. Et c'est ce qu'il doit apprendre. C'est pour cela que l'imam Razali considère comme une obligation la connaissance des pièges du diable pour les éviter. Et nous aussi, nous devons être mis au courant des conflits qui existent dans les couples. Car un musulman averti en vaut 100. Donc, il faut les connaître, il faut lire. Il y a des études qui ont été faites sur les grands problèmes qui existent dans les couples. Et puis réfléchir et se dire, Allah mahfoudni ya Rab, protège-moi de ce problème. J'espère qu'il n'arrivera jamais. Mais un problème est dû à quoi? À des causes. Alors quelles sont les causes qui mènent au conflit? Primo, l'idéalisme, l'utopie. Celui qui rêve et qui se dit, je vais me marier et tout ira bien. Je vais me marier avec une musulmane et une musulmane c'est masha'Allah, d'accord? J'ai entendu dans la khutbat al-jumu'ah et la conférence les qualités de la musulmane. Et lui, tout de suite, il n'a pas fait la différence entre la théorie, la réalité et la pratique. Et quand il est tombé sur sa musulmane ou elle est tombée sur son musulman, ben, il a vu que ce n'était pas tout à fait ça. Et là, il y a un choc. Et on a du mal justement à encaisser le choc et à se dire, mon Dieu, ce n'était pas ce que je pensais. C'est beaucoup plus compliqué, ce n'est pas aussi parfait. Alors moi je vous annonce les couleurs tout de suite. Il n'y a pas d'épouse parfaite, il n'y a pas d'époux parfait. Il faut rechercher l'époux et l'épouse qui ont 50, au moins 1% de qualité. Plus il y en a, mieux c'est. Mais en dessous de 50, vous pouvez prendre, mais à vous de gérer après. Mais recherchez le meilleur. Évitez le pire, mais il n'y a pas de parfait. Donc ça, l'utopie, l'idéalisme. Deuxièmement, qui crée des conflits, ce sont les manquements à nos principes moraux. On sait tous que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le croyant n'insulte pas, le croyant ne maudit pas, il nous recommande à plusieurs reprises ne vous mettez pas en colère, etc. etc. Toutes ces règles de morale qu'on a entendues et qu'on entend souvent, qu'on essaie d'appliquer et qu'on applique bien quand on est en public, quand on est en privé, subhanallah, on devient handicapé dans ce domaine. On dirait que les hadiths parlent aux musulmans en tant qu'individus et non pas en tant qu'époux, en tant que père. Et en fait, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que on est trop exigeant avec nos épouses et avec nos enfants. Avec une femme étrangère, on est cool. On n'est pas si exigeant que cela. Mais quand c'est avec notre épouse, on est exigeant. C'est-à-dire, on n'accepte pas d'elle l'erreur et le manquement et la faute. On veut toujours qu'elle soit au top. Et ça, c'est pas possible. C'est une femme, c'est un être humain. Elle a ses moments de faiblesse, elle a ses défauts, elle a ses sautes d'humeur. En tout cas, nous devons faire preuve de beaucoup de sagesse quand on vit en couple. Et surtout nous débarrasser de cette faiblesse qui est le ghadab, la colère. Car quand on est en colère, on ne sait pas ce qu'on dit ni ce qu'on fait. Et on fait, on regrette et on dit et on pleure après. Donc, maintenant, apprenez à étouffer votre colère. Apprenez à encaisser les coups. Il faut que vous atteigniez un degré où on vous insulte et vous ne réagissez pas. Pas parce que vous n'en êtes pas capable, hein, mais parce que vous voulez donner une leçon à votre ego et lui dire « Je te maîtrise ». Car si tu démarres au quart de tour, tu vas faire des dégâts dans ta famille. Car en tant que musulman, tu vas sans doute atteindre un degré où tu vas insulter ta femme ou ta femme va t'insulter. Et si pour une insulte, tu tues, tu frappes, tu vas sans doute divorcer plus tôt que prévu. Conclusion. Un bon mari, c'est celui qui ne se met pas en colère, sauf si la loi de Dieu est transgressée. Et nous, généralement, il n'y a pas de colère pour Allah, il y a de la colère pour nous-mêmes. C'est quand on est agressé en tant qu'individu par notre épouse qu'on se met en colère. Mais quand notre épouse agresse Dieu, agresse le prophète, en désobéissant, en n'appliquant pas, on ne se met pas autant en colère. En fait, notre nefs, il a encore une belle place dans notre poitrine. Et il faut essayer de l'étouffer. Je vous ai dit tout à l'heure que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa femme lui a balancé au visage, et c'est toi qui te prétends prophète. Une autre fois, il y avait une dispute avec sa femme, et Abu Bakr est intervenu pour trancher, et Aïcha, radiallahu anha, a dit au prophète, « Sois juste !» Un air de dire, attention, t'as pas intérêt d'être injuste. Et Abu Bakr n'a pas supporté cette remarque et il a giflé sa fille. C'est comme ça que tu parles au prophète? Tu demandes au prophète d'être juste? Mais le prophète ne peut être que juste. C'est une insulte que de lui dire d'être juste. Ça voudrait dire qu'il pourrait être injuste. Et là, le prophète intervient et dit à Abu Bakr, reste à ta place. Je t'ai pas appelé pour la gifler. Je t'ai appelé pour nous réconcilier. Va-t'en. Et ils ont fait la paix. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait maîtriser sa colère. Donc faites attention, beaucoup de conflits sont dus à la colère. C'est vrai que parfois il se peut que mon épouse commette une faute, mais ce n'est pas toujours sage d'intervenir au moment où elle commet la faute, parce que peut-être qu'elle l'a commis par erreur, par faiblesse, par oubli, et toi, voyant la faute sous la colère, tu condamnes alors qu'elle a des circonstances atténuantes. Des circonstances atténuantes que tu pourrais comprendre plus tard, après que la colère soit passée. En fait, vous savez ce qui se passe? Au lieu d'agir, nous réagissons. Eh oui. Au lieu d'agir, nous réagissons. Et la réaction n'est pas bonne. La réaction est due à quoi? Est due à des sentiments de haine, de colère, de vengeance, etc. Et c'est pas bon. Il faut toujours prendre du recul, vous allez éviter beaucoup de problèmes. Si vous prenez du recul. Donc évitez la colère. Beaucoup de conflits sont dus, donc j'ai dit un manque de morale, hein, manque la colère, hein, on n'a pas assez étouffé notre nefs. Troisièmement, un manque de courage, car quand on vit en couple, ça nécessite du courage. Je parle du courage physique entre autres, hein, ouais. C'est du boulot, je suis désolé, c'est pas le club med, vous rêvez. Il faut te réveiller tôt, il faut courir, faut faire les courses, tu rentres à la maison, faut faire à manger, faut laver, faut nettoyer, les enfants. Et vous savez, quand on travaille, on se fatigue. Et quand on se fatigue, vous savez ce qui se passe? Mais on perd la tête. On s'énerve pour un oui, pour un non. On crie sur tout le monde. On ne fait plus tout à fait ce qu'il faut faire. Et l'autre en face de nous ne nous comprend plus, il ne nous supporte plus. Alors, quand on est marié, croyez-moi, c'est du boulot, c'est du travail. On dirait que tu n'as pas le droit d'être fatigué. Sauf si ton conjoint comprend. Si ton conjoint, il est assez psychologue et il comprend bien. Quand tu es fatigué, il prend la relève. Et quand lui, il est fatigué, toi, tu prends la relève. Vous voyez le système? Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on n'est pas conscient de l'état physique ou psychologique de notre conjoint. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout ce qu'on sait faire, c'est faire des constats qui sont négatifs et nous sommes des juges, on condamne. Comprenez? Le tribunal. Et dans le couple, il ne faut pas qu'il y ait de tribunal. Le tribunal, c'est à la fin quand on doit divorcer. Mais quand on est en couple, il ne faut pas qu'il y ait de tribunal. Vous savez qu'est-ce qu'il doit y avoir? Il doit y avoir un psychologue avec une psychologue, quelqu'un qui se met dans la peau de l'autre et qui a de l'amour et de la pitié, de la compassion et de la miséricorde et qui dit toujours « Je suis au garde à vous, je suis présent pour ton bien. » Mais c'est comme ça, tu donnes, tu reçois. Tu donnes rien, mais tu n'auras rien du tout. Ou si tu as, tu n'auras pas pour longtemps. Ensuite, les problèmes dans les couples sont dus à quoi? Sont dus aux familles respectives. Ça peut être la famille du mari comme la famille de la femme. Alors ça peut être une belle-mère qui fouine dans les affaires du couple. Ça peut être un beau-père qui veut garder son enfant et qui ne sait pas que son enfant a pris son indépendance. Alors il le sollicite trop souvent. Ça peut être un mari qui n'a pas encore coupé le cordon ombilical avec ses parents et qui croit que il doit toujours être avec sa mère et avec son père. Il est plus souvent sa famille qu'avec sa femme et ses enfants. Ou bien ça peut être une femme, Kim Skina, si elle ne voit pas sa mère toutes les 3h30, bah elle fait la tête parce que... Non. Vous savez, quand on a fait le choix de se marier, on a fait un choix aussi qui s'appelle de divorcer en partie avec sa famille. J'ai bien dit en partie. Hein. Je n'ai pas dit de la rejeter, de l'ignorer. Voilà, Kim, tu ne pourras plus être avec tes parents comme tu l'étais avant et être à leur service comme tu l'étais avant. Et qu'ils fassent de ton argent ce qu'ils faisaient avant de ton argent. Tu as des devoirs vis-à-vis de ta femme et de tes enfants. Toi aussi, chère sœur. N'oublie pas qu'en te mariant, tu as fait le choix de sacrifier énormément de choses. Et entre autres, de sacrifier tout ce que tu trouvais de bien chez tes parents. Tu quittes la maison de tes parents et tu vas vers une autre maison, une autre demeure pour vivre avec un inconnu jusqu'à ce que tu le connaisses. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Ce sont des femmes qui se plaignent des maris qui sont trop absorbés par leur famille. Et ça, c'est un défaut. Ou des femmes, des maris qui absorbent trop leur femme dans leur famille, la petite ou la grande, et qui veulent que leur femme n'ait plus aucun contact, sauf une fois par an, avec sa famille. Et ça, ce sont des extrêmes. Sois bien avec la famille de ton mari. Considère sa mère comme ta mère et son père comme ton père, même si ce sont des diables, entre guillemets. Hein. Il n'y a pas de diable, mais admettons. D'accord? Fais l'hypocrite avec eux. Parce que ce qui t'intéresse, c'est ton mari, c'est pas eux. Ok? Si tu es bien avec eux, ton mari sera bien. Si tu n'es pas bien avec la famille de ton mari, ton mari, tôt ou tard, il ne sera pas bien avec toi. C'est un sacrifice. Pour garder ton mari, pour garder vos relations, il faut que tu fasses des sacrifices vis-à-vis de sa famille. Toi aussi, mon frère. Cette femme, c'est vrai qu'elle a fait un effort extraordinaire en quittant sa famille, ses frères, ses sœurs, son indépendance, sa liberté, et elle est venue en prison. Il faut dire la vérité. Le mariage, c'est une partie d'une prison, puisque ma liberté, je l'ai sacrifiée à moitié. Moi, en tant qu'homme, je suis en prison, je fais plus ce que je veux. Mais prison, comprenez-moi. Et elle aussi, elle est en prison. C'est le hadith qui le dit. Elles sont prisonnières chez vous. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus libres d'agir comme elles veulent. Parce que maintenant, il y a un nouveau système qui s'appelle la famille. Et il y a des lois, il y a des règles, il y a des limites, il y a des ordres, il y a des interdictions, etc. etc. Voilà qu'il ne faut pas qu'elles vivent Alcatraz. Il faut qu'elles se sentent protégées chez elles et qu'elles gardent toujours un pas à l'extérieur avec sa famille. Dernièrement, je suis intervenu par téléphone dans un couple. Le frère en avait marre de sa femme qui le sollicitait souvent pour aller vers sa famille. En plus, elle habite pas loin. Et j'ai dit au frère, il y a un riz. Si tu laisses pas ta femme aller voir sa famille, tu sais ce qui va se passer? Ça va être la guerre entre vous deux. Et tu vas la perdre. Et après, tu vas perdre tes enfants. Conclusion, pour garder ta femme et tes enfants, allez, khalik, pour garder tes enfants. Ta femme t'en veut plus, mais c'est quand même la mère de tes enfants. Donc, pour garder tes enfants, lâche du mou. Laisse-la voir sa famille. Et puis tu seras bien et tes enfants seront bien. Parfois, il faut en arriver à quoi? À peser le pour et le contre. Si tu considères que c'est mal, en fait, c'est pas mal que ta femme voit sa famille. Hein? Mais admettons, tu considères que c'est mal, bah c'est un moindre mal. Mais en fait, mon frère, wallah, si tu arrives à gagner la famille de ta femme à ta cause, tu seras heureux. Tu seras heureux parce que ta femme va être heureuse. Fais des cadeaux à sa mère, tu vas voir. Fais des cadeaux à son père. Prends le téléphone, demande des nouvelles à de ta belle-mère. Après, tu lui dis, je te passe ta belle-fille. Non, je te passe ta fille belle. D'accord? Mais je t'assure que ta femme, elle va être contente ou non? Elle va être heureuse. Et elle va être épanouie. Et qu'est-ce qui va se passer? Qui c'est qui est gagnant dans l'histoire? T'es d'accord que c'est toi, puis c'est elle, puis c'est tout le monde. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On a compris? Donc attention, hein. Faut savoir gérer les relations avec les familles respectives. Qu'est-ce qui crée encore des conflits dans le couple? La jalousie maladive. Il y a une bonne jalousie, hein. D'accord? Qui fait que l'homme est fier de sa femme, qui fait que l'homme montre à sa femme qu'il aime à mourir. Alors qu'il y a une jalousie, voilà, ta shaitan. Qui fait que le mec, il devient fou. Il supporte pas que sa femme sorte parce qu'il a peur que quelqu'un voie sa femme et que sa femme tombe amoureuse de ce quelqu'un. Et si jamais sa femme a parlé à un homme, il devient fou, même si c'est le facteur qui doit lui faire signer un récépissé. Tu sais, c'est. Ou la coup de téléphone, c'était qui? Bah, elle n'ose même plus dire que c'était son frère. Traf. Ça, c'est dangereux. C'est maladif. D'accord? Si elle a confiance, pourquoi tu doutes de ta femme? Alors là, je suis entré une fois dans un couple, il y avait Dabza. Vous savez, c'était dû à quoi? C'était dû au fait que. Là, c'était la femme qui était jalouse. C'est rare quand la femme a une jalousie maladive, mais cette fois, elle était malade, Mskina. Bah, elle a fait scandale, ça allait au divorce parce que elle a vu son mari faire quatre bises à une femme. Et en fait, Mskine, non, attendez, calmez-vous. En fait, le Mskine, bah, la femme, elle est venue vers lui, et vous savez très bien qu'il y a des femmes, il n'y a pas de limite avec elle. Elle lui a sauté dessus, elle lui a fait quatre bises. Ouais, Mskine, il était gêné, il n'arrivait pas à la repousser. Mais elle a tout de suite dit, mon Dieu, Hada, c'est ça, copine. Alors qu'il suffisait de lui dire. Le soir, après avoir fait la tête la journée, c'est qui cette femme qui t'a fait quatre bises? Et il va t'expliquer. Ah ouais, il n'a pas jugé bon lui dire parce que Hachem y avait honte. Voilà qu'il y a un conflit qui a duré des mois à cause de quoi? À cause d'un faux problème. L'achor miskin, il a mis sa femme par terre, des coups de poing dans le visage. Pourquoi? Parce que sa femme avait une bague. D'où te vient cette bague? Et Mskina, elle était naïve. Elle lui a dit, ben, c'est quand j'étais en vacances dans ta famille. Ton beau-frère, il me l'a offerte. Abel, il l'a tué pour cela. Alors que son beau-frère, Mskine, n'était pas très musulman dans le sens où il sait pas que des trucs comme ça, il faut pas trop les faire parce qu'on sait jamais. Alekoulihal, la jalousie maladive peut pousser l'individu à quoi? Au conflit, au divorce. Alors, ne soyons pas plus royalistes que le roi, d'accord? Plus jaloux que le prophète lui-même. Prophète, alhamdoulilah. C'est notre modèle et notre exemple. Essayons de voir comment il a géré cette histoire de jalousie. Un autre problème dans les couples qui revient souvent, c'est le problème d'argent. Et oui, le flous. Là, on est musulmans, hein? Ah ouais. La dunya, elle est pas dans le cœur, hein, la dunya, ouais. Elle est loin, mon œil. Et le flous commence le jour du mariage, avec la dot. Les frères aiment bien le hadith qui dit « Mariez-vous avec une sourate du Coran. » Comme ça, ils lâchent rien. D'accord? Et moi je vous déconseille ça les sœurs. Le frère il vous demande en mariage, vous lui demandez une Mercedes. Vous allez dire, oh stop, là qu'est-ce que tu dis bid'a, le prophète a dit que. Écoutez, vous savez, avant je critiquais nos parents qui dans la dot ils demandaient 10 000 francs, ils demandaient 20 000 francs. Mais ils n'ont pas tort, Erwan. Ils n'ont pas tort. Vous savez pourquoi ils n'ont pas tort? C'est un droit qu'a la femme. Omar ibn al-Khattab il voulait le diminuer. Hein? Et qu'est-ce qu'a dit une femme? Elle a dit, Omar, Allah, il n'a pas limité la dot. Et après, vous savez, 5 ans de mariage plus tard, tu peux me passer 100 francs? Non, j'ai pas d'argent. J'ai déjà donné 5 francs la semaine dernière. Oui. La femme, elle veut son petit argent de poche, hein? Et le mec, il sert. Pourquoi? Parce que dans sa tête, elle sait pas dépenser, elle dépense à tort et à travers. Et ça existe des femmes qui dépensent à tort et à travers, qui savent pas gérer l'argent. Eh ben, croyez-moi que cette histoire d'argent, ça crée beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que la femme, elle considère le fait que l'homme, il porte le pantalon. Ouais, il y a le porte-monnaie. Elle dépend de lui. Donc elle doit tendre la main. Et l'homme, lui, il est là en hauteur. Je voudrais de l'argent. Alèche, ça te regarde pas, je veux de l'argent. Je veux de l'argent, j'ai envie d'acheter un cadeau pour ma mère. Oh non, ta mère, on lui a déjà acheté un cadeau il y a 5 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Regardez, regardez. J'invente pas, hein, tout ça, c'est des... Je m'en allais faire la prière de Tarawih à 10h du soir, et il y a une femme qui m'arrête en plein milieu de la rue, une musulmane, emmène-moi au commissariat. Tla, khalte, tla, tla, chouia. On l'a calmée. C'était un conflit, elle venait de se battre avec son mari, elle allait porter plainte. Pourquoi? Parce que son père était venu du bled et son mari ne voulait pas lui donner un centime pour que son père reparte avec les valises pleines pour sa famille d'Abza. Oui, plein de problèmes auxquels on ne pense pas avant d'être marié. Avant d'être marié, si on va se marier, on va vivre d'amour et d'eau fraîche. Tu vis d'amour et d'eau fraîche 4 jours. La semaine est plus longue. Et il faut de l'argent pour vivre. Et chacun a son petit jardin et il aime bien planter dans son petit jardin ce qu'il veut. Ainsi, la femme a le droit d'avoir son argent. Et les problèmes d'argent créent des divorces et des bagarres matin, midi et soir. Alors c'est la femme qui dépense à tort et à travers, Allah istar, mon seba. Et le mec il travaille, il ramène, il met dans une caisse, mais il y a un trou en bas. C'est qui? C'est sa femme qui récupère et qui meuble la maison, change tous les ans de meubles, de tapisserie, la vaisselle, il n'y a plus de place, les vêtements sans arrêt, les chaussures, la nourriture. Ah ben le mec il est bel à la fin, il devient fou. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Ben, il sert trop et après ça explose et elle dit ben, moi je vais travailler. Comme ça j'aurai mon argent et je serai indépendant. Et les histoires, les enfants regardent et ils comprennent plus rien du tout. Donc cette histoire d'argent, il faut le savoir. Moi je vous dis, il faut qu'il y ait une confiance. Et les sœurs, Allah et Barak Fikoum, rien de pire pour un homme qu'une femme dépensière. C'est horrible. Qui dépense à tort et à travers, c'est horrible. Vous savez pourquoi c'est horrible? Parce que, excusez-moi les femmes, hein, je vous le dis pour vous, hein, si vous voulez pas vous jeter à la poubelle ce que je dis, mais généralement, une femme, quand elle voit quelque chose de beau, elle saute, elle plonge. Elle voit une belle robe, une belle chemise, c'est naturel, hein. Je dis pas que c'est un péché, hein. C'est la fitra. Elle voit des bijoux, et heureusement d'ailleurs qu'elles sont comme ça, sinon ça serait... Un bon parfum, taïb. Il faut se payer tout ça, mais il y a des limites. L'homme, vous savez quoi? L'homme, il calcule. Dans 10 ans, il faut que j'achète une maison. Ah, la voiture, c'est bientôt l'assurance, la vignette. Le cardan, il est mort. Il faut que je fasse la vidange. C'est des trucs, peut-être, parfois, vous, femmes, vous n'y pensez pas. Ou, il met de l'argent de côté au cas où il y aurait des problèmes. Il n'y a pas longtemps, il y a 15 jours encore, je suis intervenu dans un couple à cause de quoi? Abel, le frère, il me dit, écoute, je touche autant par mois, il y a autant d'allocations, explique-moi mathématiquement comment se fait-il qu'à la fin du mois j'emprunte de l'argent. Explique-moi mathématiquement. Ah ben ça s'est expliqué, vous savez comment? Un parfum par-ci, par 300 francs, une petite robe pour sa petite fille qui ne vaut rien du tout, mais parce qu'il y a une griffe dessus. Et les marques là. Ouais, à 500 francs. Et le mec, il travaille menhana, il s'assort menhana. Debza. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à la fin? Il a repris les comptes. Ah ben, c'était wa'ad. Vous savez, c'est dur de changer de régime. Et il lui a dit, maintenant, tu fais le khobz, jeune. Elle dit, quoi, moi, je vais faire du khobz? Il y a du khobz à la boulangerie. Il lui dit, t'as jeune. Ah ben, debza, bagarre, divorce. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Alors, l'argent cause des problèmes. La dounia, je suis désolé, elle est toujours là. On ne sait pas gérer notre argent. Alors, faites attention. Mettez les points sur les i. Et moi, je dis, il faut qu'il y ait une confiance mutuelle. Ouais, dans le couple. Moi, ma femme, elle a le porte-monnaie, j'ai le porte-monnaie, j'ai confiance en elle. Je sais qu'elle dépense pour le bien de la famille, je dépense pour le bien de la famille. Quand c'est une dépense importante, on se met d'accord. Si c'est des petits trucs de tous les jours, s'il te plaît, maître, je peux aller acheter une baguette? Non, c'est évident que ça ne se fait pas ça. Mais il y a un minimum de bon sens et il faut savoir régler nos problèmes. Maintenant, il y a un autre problème qui revient. Wala haya fiddin. Dans les couples qui causent des conflits, des divorces. C'est la question de la sexualité. Et il est là, il est présent et il est plus important qu'on ne le pense. Là, je rêvais avant. Je croyais que les problèmes sexuels, c'était un ta'hum. C'est home. Nous, on est des anges, nous, c'est 10-10. On a le Coran et la Sunna. Ya Hasra. Si vous saviez ce qui se passe dans la communauté musulmane, je parle des gens qui pratiquent. Elle est là, la jahiliya, elle nous ronge au quotidien. J'ai vu des frères, wallah, vous n'y croirez pas vos yeux ni vos oreilles. Ils sont là, ils croient le weird. Et ils ne ratent pas une scène érotique à la télévision ni une émission érotique. Pourquoi, à votre avis? Ça remonte à l'enfance, et puis problème sexuel, sa femme se refuse à lui. Donc il cherche à assouvir sa sexualité dans quoi? Dans le fictif. Ou cette femme qui couche avec son mari et qui vient, qui te dit, quand je couche avec lui, c'est comme s'il me viole. Et je ne pense qu'à une chose, c'est de coucher avec un autre. Je ne vous parle pas des étrangères, je vous parle de nos sœurs. Pourquoi, à votre avis, tout cela? Parce que on a raté les bases, on a raté le Coran et la Sunna, en fait. Et où est le problème? Et le problème, il est là. C'est que les hommes, sexuellement parlant, sont très sollicités. Par quoi? Par leur nefs. Ils sont dehors, ils voient ce qu'il ne faut pas voir, ils ne baissent pas leur regard, sauf s'il y a un frère avec lui, Hachem du frère, mais pas de Dieu. Hein? Quand ils regardent la télé, il y a quelqu'un, ils zappent, s'il est tout seul, Zid, c'est pas grave. Hein? Dehors, il est aussi agressé, Miskin, l'arabe. Eh oui, faut dire, on est agressé tous les jours. L'idéal, c'est de baisser son regard, c'est de penser à Allah. Mais tout le monde n'est pas puissant. Hein? Pour voir une femme et la considérer comme un poteau. Ça, c'est... Non, il y a des gens qui étaient comme ça. Hein? Utba al-Ghulam, il a levé les mains, il a dit, Allah, je veux trois choses, pas plus. Je veux avoir une belle voix quand j'ai le Coran. Je veux, quand je vois une femme, c'est comme si je voyais un poteau. C'est-à-dire que je ne sois plus attiré par la femme. C'est une attirance. Hein? Et troisièmement, je veux mourir martyr. Et alhamdoulilah, il les a eu tous les trois. Donc, on est agressé. Les femmes vont me dire, ben nous aussi, on est agressés. Hein? Les mecs aussi, il y en a des beaux dans la rue. Il y en a à la télévision qui sont beaux. Et ils nous agressent. Je suis d'accord avec vous. Mais je crois que la femme t'aime beaucoup plus que l'homme. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que l'homme... Ses envies sexuelles sont multiples. Et il ne se fatigue pas et la femme se fatigue. Et on dirait que les hommes, j'ai bien dit on dirait, hein, ben une femme ne leur suffit pas. Alors ils sont vite autosatisfaits de leur épouse et ils cherchent autre chose. Et ça, ce vice, il existe hein, chez les hommes. Alors, en tant que musulmans, on fait le jihad pour nous contenir. Mais j'ai travaillé une fois en entreprise. De quoi ça parle? C'est en dessous de la ceinture. Et les mecs, ils sont tous mariés. Ils ont 50 trucs, machin, à côté. Hein. Et hada ce musulman qui fait le jihad muskin. S'il n'est pas satisfait avec sa femme, ben, il va y avoir un blocage. Il va y avoir un refoulement sexuel. Et ça peut dériver très 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 loin. Ainsi, écoutez bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une femme n'a pas à se refuser pour son mari, sauf si elle est en état d'impureté ou si elle jeûne la journée ou si elle fait le pèlerinage pendant les périodes du pèlerinage. En dehors de cela, quand un homme appelle sa femme au lit, même si elle n'a pas envie, même si elle ne comprend rien du tout, même si c'est arrivé ce matin, ça doit arriver une deuxième fois l'après-midi, même si elle est fatiguée, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête du mec. Et si le mec, il n'est pas satisfait, on ne sait pas sa tête où vous allez la retrouver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un être humain comme nous. Ils ont dit de lui que dehors, quelque chose l'a excité, il est rentré, il a eu des rapports avec sa femme. Et il a dit, la femme, Shaitan, il vient sous la forme d'une femme, c'est-à-dire que Shaitan nous excite en nous faisant montrer une femme et ça réveille en nous l'instinct sexuel. Et si vous, ça vous arrive, allez voir votre femme pour apaiser votre envie sexuelle. Ainsi, une femme ne... Il ne faut pas qu'elle le fasse, sauf si elle a une excuse qui est valable. Le prophète dit, même si elle est en train de faire son pain, même si... Bref, il faut qu'elle sache que c'est un devoir et aussi une nécessité pour l'équilibre sexuel dans le couple. Ça, c'est du côté de l'homme. Et la femme doit tout faire pour, comme disent les Arabes, remplir les yeux de son mari. C'est-à-dire, quand elle est à la maison, il faut qu'elle soit attirante et belle. Et c'est le propre de la femme, justement, que d'attirer. D'accord? C'est pas on se fait belle quand on sort, on se parfume quand on sort, on se maquille quand on sort. Quand on sort, on essaie d'être naturel, et quand on rentre, on doit exceller. Il n'y a pas de limite, hein, les sœurs et les frères. Il n'y a pas de limite dans ce domaine-là. Toutes les tenues vestimentaires sont les bonnes, tous les apparats sont les bons, si cela doit mener à une jouissance halal. Ensuite, une femme ne doit jamais divulguer les secrets sexuels, l'intimité sexuelle. Mais alors là, jamais. Sauf si on en arrive au tribunal, il y a un juge. Mais jamais. Pourquoi ? Parce que c'est la catastrophe, ce truc-là. Du côté de l'homme, il faut que l'homme sache que une femme, elle est limitée. Et des rapports sexuels tous les jours, ou trop souvent, ça la fatigue. Et ça la rend folle. Et ça la dégoûte et ça l'écœure. Car une femme, elle trouve son plaisir plus dans les relations sentimentales, dans l'expression des sentiments qui doivent émaner d'un homme que dans l'acte charnel et sexuel lui-même. Une accolade, une embrassade, des baisers, des gestes, pour elle, sont très satisfaisants. Il y a l'acte sexuel en lui-même, mais ce côté est beaucoup plus important chez elle et doit revenir plus souvent. Chez l'homme, on dirait que c'est plus le côté charnel, la jouissance qui revient souvent. Alors, il ne faut pas en arriver à écœurer la femme du sexe. Parce que notre religion nous a mis des limites. Elle nous dit, tu fais ta rapport sexuel et à l'eau d'eau. Les grandes ablutions. Les grandes ablutions, c'est fatigant. Une fois, deux fois, trois fois, ben c'est fatigant, surtout pour la femme. Maintenant, dans l'acte sexuel lui-même, il y a un gros problème. C'est l'homme égoïste qui ne pense qu'à son plaisir. Tout ce qui l'intéresse, c'est de jouir. Si sa femme n'a pas goûté à la jouissance, il s'en fiche. Et ça, le prophète dit, n'allez pas vers vos femmes comme un âne va sur une ânesse. C'est-à-dire, il monte sur sa femme et tout ce qui l'intéresse, c'est sa jouissance et il laisse sa femme sans qu'elle-même n'ait pu assouvir son plaisir sexuel. Ça, ça casse. Une fois, deux fois à la fin, elle en a marre, c'est du viol, c'est plus de l'amour. C'est pour cela qu'il y a un gros problème physiologique. C'est que l'homme ne patiente pas. Il est vite excité, il a vite envie d'éjaculer. Et la femme, non. Alors le prophète nous dit, il faut qu'il y ait une introduction. Il faut embrasser. Il faut... Faut pas y aller comme un animal, mais il faut y aller gentiment, doucement et avec savoir-faire. Et c'est pour cela que cela se prépare la journée. C'est pas je la frappe la journée, je couche avec elle le soir, comme dit le prophète. Qu'avez-vous à frapper vos femmes la journée, vous couchez avec elle le soir. Mais si la journée s'est bien passée, on s'est amusé, on a rigolé, déjà, il y a une prédisposition à l'acte sexuel. Et il y a autre chose aussi qui est dangereux, c'est de s'imaginer qu'on couche avec quelqu'un d'autre, ou d'avoir en tête une autre femme, etc. Hada, c'est un péché. L'ayajouz, c'est du zina. On n'a qu'une épouse, on n'en a pas 50 000. On n'a qu'un mari, on n'en a pas 50 000. Cette question de sexualité, elle mérite beaucoup plus d'approfondissement, mais le temps ne le permet pas. C'était quelques problèmes dans le couple qui reviennent assez souvent. Maintenant, une chose est sûre, les frères, c'est que, wallah, sans l'aide de Dieu, on n'est pas clair. Hadi, mettez-vous ça dans la tête. Wallahi, sans l'aide de Dieu, nous sommes faibles. Et on est capable du pire. En tant qu'époux et en tant qu'épouse. Alors craignez Dieu. Et retenez cette parole de Mohammed ibn Wasi'a, qui disait, je sais quand je désobéis à Dieu. Je le vois à travers le comportement de ma femme et de ma monture. En bon français, si ça ne va pas avec Allah, on lui désobéit, Allah nous punit. Vous savez comment ? Il nous met la fitna dans la maison. Alors, soyons bien avec Dieu, il y a beaucoup de chances qu'on soit bien avec les gens. On déconne avec Allah, ça va déconner entre nous. Et être bien avec Dieu, c'est le craindre dans les petites choses et les grandes choses. En privé et en public. Être à l'intérieur, comme on est à l'extérieur, et que notre extérieur soit le reflet de l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il doit avoir à l'intérieur ? La sincérité. Vous savez, s'il y a sidq, l'ikhlas, la sincérité dans le couple, on a gagné. La confiance, la sincérité. S'il te plaît, ne me trahis pas. Ne me trompe pas. Dans tes sentiments, dans tes paroles, dans tes gestes. et une femme. Si tu gagnes son cœur, elle te donne son cœur et son corps et son argent et tout ce qu'elle a. Un homme, si tu le respectes, tu te sacrifies avec lui, pour lui, il va te donner ce qu'il a. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin.
Donc il nous reste, on va dire, un petit quart d'heure pour les questions. Ceux qui ont des questions à poser directement, Inch'Allah.
Je voulais poser une question. La dernière fois, j'ai entendu qu'il y a eu un dars, bon, je ne veux pas dire où ça s'est passé, mais il y a eu un dars entre sœurs, et comme quoi les sœurs, elles n'ont pas le droit de... Enfin, elles n'ont pas le droit. Il y avait des frères qui étaient en train de demander aux sœurs de garder leur hijab à l'intérieur de la maison. Parce qu'elle disait que les anges, ils pouvaient pas, ils rentraient pas dans la maison, je sais pas quoi. Enfin, je trouve que là, si ces frères-là qui sont en train de divulguer ce genre de choses, ou alors leur dire qu'elles n'ont pas le droit de s'épiler leur moustache ou les jambes, je sais pas, frère, il y a quelque chose qui tombe par rond, ou dans leur tête de ces frères-là, ou c'est vraiment les sœurs qui dans leur tête, elles tombent par rond, à mon avis. Et je voudrais bien que tu nous orientes un petit peu là-dessus.
Non, c'est réel, il y a des gens qui pensent ça. Il y a des hommes qui pensent ça, des femmes qui le pensent moins. Parce que les pauvres, c'est de l'autosuicide. Non, non. Une femme garde son voile en présence d'un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un mahram. Maintenant, s'il y a des gens qui veulent être plus royalistes que le roi, qu'ils s'imposent cette religion à leur propre personne, mais qu'ils ne l'imposent pas aux autres. Une femme, elle peut garder son hijab à la maison. C'est son droit, hein, si elle le fait pour plaire à Allah. Allah, il ne lui a pas demandé, hein, mais admettons qu'elle le fasse avec cette intention. C'est son droit. Voilà, qu'elle ne sorte pas et qu'elle dise aux autres sœurs, garde ton hijab. Parce que pour dire aux gens, faites ou ne faites pas, il faut qu'il y ait une invitation de la part de Dieu ou de son prophète. Et on n'a pas le droit de rajouter des choses dans la religion, de retirer des choses de la religion. Sinon, ça fait un monstre après notre religion. Et ça fait fuir les gens. Donc les sœurs ensemble, elles retirent leur voile. Et qu'on ne nous dise pas, oui, mais si elle retire son voile, elle va aller raconter aux autres, peut-être parmi eux, parmi elles, il y a une sœur qui n'est pas bien, elle fait une namima, elle va aller raconter aux autres la couleur des cheveux de la sœur. C'est que ça, comme ça qu'ils pensent. Ou bien ils disent, s'il y a une femme qui n'est pas musulmane, il ne faut pas enlever son voile devant. Parce qu'après, elle va aller dire à son mari que cette sœur musulmane, en dessous de son voile, elle avait une coiffure qui était comme ça. Il y a des hypothèses, des suppositions qui rendent la vie impossible aux sœurs, qui font fuir les sœurs et qui n'ont pas lieu d'être. Eh hey, Alas, tu crois que je sais pas que la sœur en dessous de son voile, elle a des cheveux? Et d'après les lois de la nature, il soit soit blond, ou la châtain, ou la khel. Et où est le problème? Enfin, je comprends pas. Wallah, je pense que c'est plus, yahi, des problèmes qui sont dus à des personnes, problèmes psychologiques, ou qui relèvent plus de la psychiatrie, et qu'ils essaient de transmettre à une communauté qui a déjà tant de problèmes, en interprétation une religion qui est souple, qui est facile et qui veut, ils veulent la rendre impossible. Pardon, l'histoire, quand on lit le Coran, elle doit garder ou le voile, même chose. Une femme qui fait sa prière sans porter son voile pendant la prière, sa prière n'est pas acceptée d'après le hadith. Sinon, il n'y a aucun hadith qui dit qu'une femme, quand elle lit le Coran, elle doit avoir un voile sur la tête. Si elle le fait avec la volonté de plaire à Allah, Allah y'aounha, mais qu'elle ne vienne pas me dire, il faut que je le fasse. Parce qu'il n'y a pas de dalil, il n'y a même pas de mustahab. Maintenant qu'une femme s'épile les moustaches, c'est la moindre des choses. Puisque il est interdit aux femmes de ressembler aux hommes et aux hommes de ressembler aux femmes. D'accord? Donc qu'elle le fasse, épiler ses jambes aussi, rien ne l'interdit. Et si cela plaît à son mari, c'est recommandé si elle le fait. Ce qui est interdit, c'est de s'épiler les sourcils.
Est-ce qu'il y a d'autres questions directement?
Non. Oui, le frère a posé une question et je lui ai dit que j'allais... Oui, d'accord. Donc la question du frère, en résumé, c'est la suivante. On en a parlé ce matin, mais il était absent et beaucoup étaient absents aussi, donc je la répète. C'est comment faire pour trouver, donc pour le frère, une conjointe, une épouse. Puisqu'on sait qu'on ne peut pas draguer les filles, on ne peut pas les accoster dans la rue. Donc comment on fait? Au bled, c'est facile. C'est ta cousine, c'est la cousine de ta cousine, c'est ta mère qui s'occupe de te la capter. Mais ici, comment on fait en France? Et c'est vrai que c'est un problème. J'avoue, c'est un problème. Comment fait-on? Alors tout à l'heure, j'avais répondu de la manière suivante. J'ai dit, le top est l'idéal. c'est que les parents s'immiscent dans les affaires de leur enfant. D'ailleurs, c'est une obligation. Et puis, mon fils est grandi. Ah, vous le dites, tu veux te marier. Si tu connais une fille, t'as vu une fille qui te plaît, tu me le dis, on va aller te la demander en mariage. Ah non, papa, j'en connais aucune. Et toi, t'en connais une? Eh, naam, j'en ai une pour toi, mon fils. Vas-y, fais la... Attention, éduquez vos enfants comme ça. Hein. Sinon, vous savez ce qu'ils vont faire, vos enfants? Ils vont courir après les filles sans que vous le sachiez. Hein. Ils vont à l'école. Ouais. Les filles vont courir après eux. Vous avez intérêt d'avoir un minimum de dialogue avec vos enfants dans le domaine du sexe. Sinon, vous allez les coincer, les bloquer, ils vont faire le haram derrière votre dos. Car ce ne sont pas des eunuques, ni des moines. Mais Halmouche, ne rêvez pas les frères. Hein. Nous, on a un gros problème avec nos parents. T'oses pas parler avec ton père. C'est ça, tu lui parles pas. Ta mère, tu parles avec elle, mais avec des codes. Comment tu fais? Ah ben, le frère, il souffre. Il a 24 ans, 25 ans, il sait pas quoi faire, mskin. Donc attention, l'idéal, c'est que les parents s'immiscent. Maintenant, c'est aussi, comme tu dis, bah, le frère, il y a sa cousine, elle vient lui rendre visite, il lui rend visite, il la connaît. Ou bien, j'ai très bon rapport avec ma sœur, moi. Ma sœur, je parle avec elle, je m'entends bien avec elle. Et puis, j'ai dit un jour à ma sœur, t'aurais pas dans tes copines, Wahda, comme ça? Ah oui, c'est très bien. Comme moi, j'ai fait pour ma sœur. J'ai dit, ma sœur, ta'alaï, j'ai quelqu'un, à mon avis, il ferait un bon mari pour toi. Bah, je veux le voir. Ils sont vus, ils se marièrent et ils sont heureux. Donc, ça, c'est encore une méthode. Troisièmement, ben, je sais pas, tu vas à l'école. Tu habites dans un quartier. Tu croises des filles. Tu vas quand même pas me dire que tu n'as jamais vu une fille dans ta vie. Que tu n'as jamais parlé avec une fille. Si tu me dis ça, c'est que tu n'habites pas en France. Donc, tu as vu des filles, tu connais des filles, tu as rigolé avec des filles, tu as fait les 400 coups avec des filles. Tu connais. Conclusion, tu peux te baser déjà sur ça. C'est une base de données. Quatrièmement, je prends tous les cas de figure. Quelqu'un qui vient de la planète Mars, miskin, qui ne connaît rien du tout, il débarque. Qu'est-ce qu'il fait? On a parlé tout à l'heure d'agence matrimoniale, il va s'inscrire. On a dit que ce n'était pas recommandé, c'était voire même interdit. Qu'est-ce qui lui reste comme solution? On a dit tout à l'heure, courir après les filles, ça ne se fait pas, c'est haram dans notre religion. Il y a des occasions où les frères et les sœurs se croisent. Ouais, on va à la mosquée, il y a des conférences, il y a... même on se croise dans la rue, dans les grandes surfaces. Le fait de voir quelqu'un et que quelqu'un nous plaise n'est pas un péché. Ça se faisait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça allait plus loin. Il y a des femmes qui venaient dire au prophète, voilà, je veux me marier avec toi. T'es ok ou t'es pas ok? Il y a un homme qui vient qui dit à une femme, je veux me marier avec toi. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? Ça se faisait. Bon, ça se faisait dans les limites. Maintenant, écoutez. Si un frère y a vu une fille, c'est pas haram. Ce qui est haram, c'est qu'il fasse le haram. Bah, qui se renseigne, qui demande. Yahri Smahli, tu connaîtrais pas cette fille? Alors, si elle est mariée, astaghfirullah, j'oublie. Si, c'est la sœur d'un tel. Si, je la connais, c'est ma voisine. Et ton avis, c'est une fille qui est bien? Elle m'intéresse, elle me plaît, du premier regard. Est-ce qu'elle voudrait se marier? Tu vois? À travers des intermédiaires. Ou bien, il y a encore une autre méthode. T'habites dans mon quartier, tu fréquentes ma mosquée, je te connais. Je joue au foot avec toi. J'ai vu comment tu te comportes sur un terrain de foot. J'ai mangé avec toi. J'ai vu comment tu fais quand tu manges. J'ai voyagé avec toi. Même, j'ai un minimum d'informations sur ta personne. J'ai confiance en toi. Tu viens, tu me dis, écoute Hassan, tu sais, je voudrais me marier. Ah, tu m'intéresses, Nita. Je connais une fille qui voudrait se marier aussi. Et tite, je crée le contact. Le frère voit la sœur voit le frère. Ils discutent. Il y a une entente primaire. Et après, on entre en contact avec la famille. Donc c'était des méthodes qu'on avait évoquées, mais j'avoue mon frère que on n'a pas de solution miracle et c'est un gros problème. C'est les frères les pauvres qui attendent et les sœurs qui attendent. Et il faut des gens pour créer le trait d'union. Et c'est pas facile, c'est pas évident parce que la responsabilité est lourde. Surtout quand il y a des frères qui viennent te voir et tu les connais pas. Traf, tu dis mon Dieu ce mec là je le connais pas, il fait le musulman maintenant mais qui me dit que c'est vraiment un... T'as la sœur, elle vient, elle fait la musulmane. Tu récites le Coran, elle pleure. Le temps d'un mari, hein. Le temps d'en trouver un. C'est le haq. Wallah, on s'est fait avoir en beauté par plusieurs personnes. Ah, moi, je reçois des coups de téléphone de toute la France. L'akhrim téléphone de... d'Algérie, là, de Marseille. Salam alaikum, mon frère. Et il me dit, tu me connais pas, mais moi, je te connais. J'ai dit, certes, je voudrais me marier. Khismahli, mais t'habites loin. C'est rien, je me déplace. Non, c'est pas la distance, mon frère, si je te connais pas. Je peux pas prendre le temps de te connaître. Oui, mais moi, je suis musulman, ransli et tout. Je dis, sauf Yahri, un peu de franchise. Wallah, je te connais pas. J'ai pas mangé avec toi. Je me suis pas disputé avec toi. Smahli, tu demandes aux frères qui te connaissent, qui vivent avec toi. C'est plus logique. Sinon, c'est des aberrations après. Par respect pour Khalte ici, qui a 57 ans, Allah faudra, elle pose une question en arabe qui dit que malheureusement, beaucoup d'imams dans les discours du vendredi ne parlent pas de l'éducation des enfants, n'adressent pas de discours aux femmes et aux hommes quant à l'éducation des enfants, en sachant très bien que tout est dans l'éducation des enfants et tout est dans le fait que la mère soit à la hauteur d'éduquer ses enfants. Je suis d'accord avec toi, Khalte. Beaucoup de nos imams ne sont pas du tout à la hauteur de la mission qu'Allah leur a donnée ou qu'ils ont prise. Ils parlent de tout sauf de ce dont il faut parler. Ils parlent de tout. Ils nous parlent du paradis et de l'enfer, alors qu'on est en train de vivre l'enfer sur terre et qu'on voudrait vivre le paradis sur terre. Ils ne nous parlent pas des problèmes dans le couple, ils ne nous parlent pas de l'éducation des enfants. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup parmi eux, les pauvres, ont leur femme au bled, ou bien ils n'ont pas leur enfant ici, ou bien ce sont des sujets tout simplement tabous, choma, on n'en parle pas. Chacun sa sauce. Oui, c'est la réalité. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les problèmes de couple, les problèmes d'éducation des enfants, c'est une affaire privée. Alors que c'est faux. La religion en parle, et si on n'en parle pas entre nous, on va à notre perte. C'est la catastrophe si on n'a pas assez de courage pour mettre sur la table nos problèmes et trouver une solution ensemble. Si vous arrivez à la trouver tout seul, Allah ibarak. Mais si vous n'arrivez pas, le minimum, c'est qu'il y ait un échange d'idées, qu'il y ait une critique constructive.
La dernière question. Lorsqu'un frère est responsable de sa famille, donc de ses parents en fait, matériellement, il est difficile pour la sœur de gérer les conflits. Quelle attitude adopter lorsque le frère est complètement absorbé par sa famille?
La responsabilité des hommes dans le domaine matériel est beaucoup plus grande que celle des femmes. La fille n'est pas responsable de ses parents matériellement parlant. Le garçon le reste et le sera toujours. C'est pour cela d'ailleurs que l'homme a deux fois plus, a double part dans l'héritage. Parce que la fille, sa part d'héritage, par exemple, ma soeur, elle avait 25% de l'héritage, moi j'ai eu 75%. Hier, les 25%, elle va les garder rien que pour elle. Moi, les 75%, ils vont partir pour ma femme, pour mes enfants, pour mes parents. Parce que je suis responsable de ma femme, de mes enfants et de mes parents. Rien, non. Elle n'est responsable que d'elle-même dans le domaine de l'argent. Et personne ne peut toucher à son argent. Ainsi, si certains frères mariés, qui ont des femmes et des enfants, continuent à assumer leurs responsabilités matérielles vis-à-vis de leurs parents, il ne faut pas leur reprocher parce que c'est leur devoir. C'est leur devoir, subhanallah. On ne peut pas rejeter, oublier nos parents. Si les parents sont dans le besoin, c'est un devoir pour le frère de les entretenir. Bien entendu, il doit faire cela de manière intelligente, si bien qu'il ne crée pas un nouveau problème qui est sa petite famille. Hein, il doit donner à chacun son dû. Et je pense que c'est possible. Il ne va pas dépenser tout son argent pour son père et sa mère. À ce moment-là, c'est qu'ils ont un train de vie qui n'est pas halal. À ce moment-là, la sœur, elle doit tenir compte de ce paramètre. Les parents de son mari sont ses parents. Et elle doit les considérer comme partie intégrante de sa famille. Et elle doit faire beaucoup d'économies. Elle doit faire des sacrifices sur elle-même, avec ses enfants, dans sa maison, pour que ses parents, donc je ne dis plus les parents de son mari, puissent vivre, car ils n'ont pas les moyens de vivre. Maintenant, si ce sont des parents qui sont aisés, et qui sont à la masse, et qui veulent leur salaire et le salaire de leur enfant, ouais, c'est vrai que là c'est trop exagéré, il faut intervenir. Ouais, il faut que le frère soit un peu plus raisonnable. Il faut quand même qu'il continue de temps en temps à donner à ses parents pour ne pas créer de conflit avec ses parents, mais il ne devra jamais faire cela aux dépens de sa petite famille. La règle générale, c'est d'essayer d'être bien avec tout le monde et de donner à chacun son dû. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin.
Que pensez-vous du hadith? Ne vous mariez pas avec la femme que vous aimez, mais aimez la femme avec qui vous vous mariez.
Je ne connais pas ce hadith. Qu'est-ce qui vous fait rire? C'est plus un proverbe, c'est ça. Je ne pense pas que ce soit un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il y a en partie vrai, en partie faux. Il faut aimer la femme avec qui on vit, mais la femme aussi avec qui on voudrait se marier, pourquoi ne pas l'aimer? Tant mieux. Il faut aimer sa future épouse. Comme ça, au moins, il y a déjà des liens qui se créent avant même. Et puis, l'aimer, une fois qu'on est marié, c'est évident. L'amour est fondamental et essentiel dans le couple. Mais, au cas où l'amour disparaîtrait, ça ne veut pas dire que le couple doit disparaître. Car il y a d'autres choses qui font qu'un couple doit exister. D'accord ? Ces choses sont, entre autres, le lien qui nous unit. Vous savez, 15 ans de mariage, c'est pas 15 ans dans le vide. Il y a quand même quelque chose qui s'est bâti entre nous deux. Puis il y a les enfants, il y a les familles.
Peut-on faire sa demande de mariage sur Internet ?
Non, ça prouve qu'on est branché. Disons plutôt, est-ce que c'est efficace ? Ouais. Alors, je pense pas que c'est efficace, puisque Internet, c'est ouvert à tout le monde. Au diable et aux humains, aux bons et aux mauvais. Donc, je pense pas que ça soit utile. Hein. Il y a des journaux, hein, vous savez, agence matrimoniale, j'ai 35 ans, je voudrais me marier. Est-ce que c'est utile ou non ? C'est dangereux. Vous pouvez tomber sur n'importe qui. Non, je pense pas, Wallah Alam, que ce soit des méthodes qui peuvent donner des résultats positifs. Comme je vous ai dit tout à l'heure, autant utiliser nos méthodes que nos parents nous ont laissées avec un peu de correction. Restons dans le Coran et la Sunna en nous disant qu'il y a un effort à faire sur soi-même. Il y a beaucoup de confiance à placer en Dieu et de l'aide. Et faire intervenir sa famille pour pouvoir nous marier en bonne et due forme.
Certains savants disent que dans un nouveau couple, il vaut mieux attendre un an avant de faire un enfant, pour voir en quelque sorte si le couple va tenir. Qu'en pensez-vous ?
C'est un avis. Il vaut ce qu'il vaut. Vous savez, parfois, il y a des gens qui sont mariés 10 ans après qui divorcent quand même. Il y en a qui sont mariés et qui n'ont pas d'enfants pendant 5 ans et qui divorcent. Vous savez, cette histoire de couple, je crois que chaque couple est un cas. Il y a des constantes qui reviennent. C'est vrai que c'est pas bête d'attendre un peu pour avoir des enfants. Tu vois, le temps de s'habituer l'un à l'autre, de s'accoutumer. Surtout si on n'a pas les moyens d'avoir des enfants. Autant attendre un peu. Mais rien n'empêche de nous marier tout de suite et d'avoir des enfants. Si on est prédisposé, parce que bien éduqué, intelligent, on comprend notre religion, on la pratique. Si on est parti sur de bonnes bases, avec ou sans enfants, maintenant ou après, ça tiendra. Mais si ça foire dans nos têtes, ça foirera qu'il y ait des enfants ou non la première ou la dernière année. Cependant, il faut savoir faire des enfants en temps et en heure.
Il y a un frère qui veut poser une question directement.
Non. Donc la question est la suivante. Quand on fait le choix du conjoint, la prière de consultation, comment l'insérer dans cette entreprise? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne regrettera pas celui qui va consulter Dieu et qui consulte les êtres humains. D'accord? Donc pour choisir son conjoint, il faut aller dans deux sens. Il faut faire un pas vers Dieu. Et ce pas se fait en plaçant confiance en Dieu, en évoquant Dieu. Et la prière de consultation est une des formes d'évocation. Donc on fait les ablutions, on fait dorakat, et on implore Dieu en ces termes: Ya Allah, si cette entreprise est bonne pour moi, dans ma religion, dans ma vie d'ici-bas et le-delà, facilite-la moi. Sinon, éloigne-moi de cette entreprise, parce qu'elle ne marche pas. Point final. Ça, c'est le pas qu'on a fait envers Dieu. Il s'arrête là. Il n'y a pas de « je fais ça, l'istikhara, puis je m'en vais dormir, et puis j'attends de voir dans mon rêve un signe, le prophète qui va me dire oui ou non, ou un chat noir qui voudrait dire qu'il ne faut pas. » Tout ça, c'est du baratin. Salat l'istikhara, c'est une invocation et une manière de renforcer notre confiance en Dieu. Il n'y a pas de signe. Tu fais ta salat l'istikhara, tu sors, dans ton rêve, tu vois quelqu'un qui dit: oh, je suis Abou Bakr, il faut surtout pas te marier avec cette fille. Tu n'as pas à suivre ce qu'Abou Bakr t'a dit dans ton rêve, parce que c'est peut-être Shaitan et non pas Abou Bakr. C'est quoi se baser sur les rêves? Oh, descendez sur terre. Si votre couple, vous le commencez avec des rêves, vous êtes mal barré. Donc soyons réalistes, on fait la prière, on demande à Allah et comprenez ce que vous dites. Ya Allah, si ça c'est un bien pour moi, facilite-le. Si c'est un mal, tu l'empêches. C'est ça la réponse de Dieu. La réponse de Dieu c'est, je demande à Allah, je demande aux gens, si je m'engage, ça passe, c'est parce que Dieu l'a voulu, ça casse, c'est parce que Dieu l'a voulu. Et quel que soit le résultat, ça passe ou ça casse, comme j'ai dit à Allah de choisir à ma place, ça veut dire que si ça a cassé, c'est un bien, si ça a passé, c'est un bien. D'accord ? Donc c'est là s'arrête la salat, l'istikhara.
La future épouse peut-elle assister à un repas chez le futur époux auquel elle a été conviée alors que le futur époux n'a pas encore demandé sa main et n'a jamais vu ses parents, les parents de la femme ?
Comme je vous ai dit tout à l'heure, la technique est la suivante. Tu peux voir une jeune fille, ouais, une jeune fille peut voir quelqu'un dans des rencontres comme celle-ci, ou bien à la fac, ou dans la grande surface, ou bien la croiser dans la rue, ou bien elle fait partie de ma famille, elle me rend visite, c'est une cousine, c'est... Il peut y avoir des moments où on se croise, on se voit, ou peut-être même on peut s'échanger des paroles générales comme on s'échange des paroles avec tout le monde et n'importe qui. Mais dès qu'il y a une intention de mariage, dès qu'il y a quelque chose qui se crée entre nous deux, je vous ai dit tout à l'heure ce qu'il fallait faire. Il fallait frapper à la porte. Toc, 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 salam alaikum, me voilà. Je suis venu demander votre fille en mariage. Si les parents donnent le feu vert, vous pouvez venir squatter chez la belle famille, vous pouvez venir manger tachbeo, discuter avec votre future épouse tant qu'il y a un membre de la famille ou plusieurs membres de la famille, c'est pas grave, tant qu'ils sont d'accord. Walillah alhamd. Vous pourrez même par la suite, si sa famille a donné le feu vert, la vôtre a donné le feu vert, correspondre avec une lettre ou un coup de téléphone. Tout ça, il y a chose, puisque vous êtes censé, Inch'Allah, terminer avec quoi ? Avec un mariage sous peu, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Au contraire, ça vous permet justement de mieux vous connaître, de renforcer vos liens.
Quand on se marie, si la personne n'est pas ce qu'on croyait, c'est-à-dire que le mari a une faiblesse dans sa foi, exemple l'alcool, et la femme s'en rend compte. S'en rend compte uniquement après l'acte de mariage. Doit-elle l'aider à s'en sortir ou ne pas rester avec lui dans cette voie ?
Ça arrive. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, la triche. Ouais. Il y a beaucoup de frères trichent avec les sœurs. Ils ne leur disent pas tout. Ou on ne dit pas tout à la sœur sur le frère. Ou bien la sœur aussi, ou le frère, on lui dit pas tout sur la sœur. Et ce qu'il est une fois marié, il découvre. Bon, il découvre des bonnes choses et des choses qui ne sont pas bonnes, mais qui le choquent. Et s'il les avait su auparavant, il ne se serait jamais engagé. Alors le conseil, à mon avis, est le suivant. Si la personne vaut le coup, et vous avez espoir en elle, bah, fait tout pour l'aider à s'en sortir. Mais... Et c'est là que l'histoire de l'enfant est intéressante. C'est de ne pas faire des enfants. Ouais. Je me marie avec cette personne, je découvre que c'est qu'il boit de l'alcool, qu'il se drogue. C'est un péché, c'est une faiblesse. Bon, je me suis fait avoir. J'ai pleuré, je suis béate. Qu'est-ce que je fais maintenant ? Je divorce ou je divorce pas ? Si la personne, elle a des qualités qui ont du poids à vos yeux, ouais, elle a ses défauts. Et vous sentez capable et courageuse pour pouvoir la corriger. Allah ankum, vous faites une action extraordinaire. D'accord ? Vous l'appelez à Dieu et à l'islam. Mais comme il y a une inconnue, est-ce qu'il va changer ou est-ce qu'il ne va pas changer ? Surtout que ça fait 1 mois, 2 mois, il n'a pas très bien évolué, il évolue, il régresse. À ce moment-là, oui, je vous conseillerais, si vous voulez rester pour transformer l'individu, de ne pas faire d'enfant. Parce qu'il y a une éventualité de vous séparer. Parce que vous ne pourrez pas vivre toute votre vie. Vous ne pouvez pas accepter d'avoir comme époux, comme épouse, quelqu'un qui ne pourra pas jouer son rôle de père ou de mère, puisqu'ils ne seront pas un modèle et un exemple. À ce moment-là, vous battez. Si après vous voyez qu'il n'y a pas d'espoir, vous pouvez divorcer, c'est votre droit. Je vous ai dit tout à l'heure que celui qui se marie, qui découvre qu'il a été trompé, que cette femme a un défaut, ou que cet homme a un défaut, il a le droit de rompre son mariage parce que ça a été un mariage qui n'a pas été fait en bonne et due forme.
Que pensez-vous du fait que comme Adam n'a pas eu le choix parmi plusieurs femmes, mais qu'elle a été qu'elle a été tirée de sa côte, cela relaterait-il de la confiance en Allah ?
J'ai compris, mais c'est une interprétation tirée par les cheveux. Naam. Yani, Allah a créé Adam, il a créé Ève à partir d'Adam. Donc c'est Allah qui a choisi pour Adam sa femme.
Non, il n'a pas choisi, il n'a pas choisi. Il ne doit pas laisser libre choix. C'est de lui, comme les fois
oui.
Dans le mariage, les choix sont complètes quand on se marie. Donc c'est que quelque part, la femme, bon, c'est à l'homme. Dans le premier verset de Al-Nisa, il nous demande, il nous dit bien, « Ô homme, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse, et qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre beaucoup d'hommes et de femmes, craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe et parfaitement. »
Naam.
Donc, comme il a tiré, quoi, je veux dire, la femme, quelque part, elle doit faire attention, enfin, c'est à l'homme de faire attention par rapport à sa foi, s'il ne va pas l'entraver dans sa foi, elle, en se mariant avec elle, puisqu'il est passé avant elle. Et pas elle.
Khair, un kolihal, c'est une interprétation. Hein. Maintenant, je veux dire. Tous les savants ne disent pas qu'Adam est créé, qu'elle avait créé à partir d'Adam. Le verset ne dit pas ça. C'est un hadith qui dit ça. Un hadith dit que la femme a été créée à partir d'une côte. Bon, ce hadith, certains le considèrent comme daif. Hein. Il n'est pas très sûr pour d'autres. Certains disent que c'est une métaphore. C'est une image pour parler du fait que la femme n'est pas parfaite. Mais ce que tu dis... On a le libre choix de choisir notre conjoint, c'est évident. Bon, maintenant, c'est sûr que si j'épouse cette personne, c'est parce que c'était dans mon destin. Mais le destin, on ne le connaît pas. On le subit, d'accord ? Mais on a le libre choix de choisir notre conjoint et on doit le choisir comme Dieu veut qu'on le choisisse, c'est-à-dire avec les critères qu'on a cités ce matin. Maintenant, il est évident que quand on se marie, c'est effectivement, comme dit le hadith, « Wazawjatan » c'est pour épouser une femme qui va nous aider dans notre religion et dans notre vie d'ici-bas, de même qu'une femme épouse un homme pour l'aider dans sa religion et dans sa vie.
Ah, mais je peux vous donner un exemple.
Oui.
Un homme qui est avec une femme et qui voit que cette femme avance beaucoup dans sa foi, alors que lui, bon, il avance pas vraiment, quoi, je veux dire.
Non.
Il n'a pas à prendre le risque de s'avancer, de se mettre avec cette femme. Parce que là, dans ce cas-là, les choix ne se complètent pas, étant donné que l'homme, il passe avant la femme. Qu'est-ce que je sais
de
vous expliquer ?
Non, c'est pas une règle.
Bah justement, la verset passe pas, puisque Adam, Ève, elle a été tirée d'Adam.
Non.
Ouais, mais c'est question de foi.
Mais frère, seulement.
Non. C'est bien de discuter. Hein. Il faut juste remettre les choses au clair. Le problème ne se pose pas comme ça, à mon avis, hein, mon frère. Vous trouvez dans la vie des musulmans, etc., tout le monde n'a pas le même degré ni la même foi. Hein. Il y a des hommes qui sont mariés avec des femmes beaucoup plus avancées dans la religion, beaucoup plus savantes qu'elles dans la religion, et ça a très bien marché, et vice-versa aussi. Ce matin, c'est parce que vous n'étiez pas là, peut-être, mais on a bien évoqué que dans la vie de couple, hein, c'est pas... La foi, elle a sa place, mais ce n'est pas que la foi. Hein. D'accord ? Ce n'est pas que la religion. Ce n'est pas que le Coran, Salah dans la vie de couple. Et même, je vais aller très loin, je vais vous dire que ça, c'est qu'une infime partie. D'accord ? Le gros de la vie de couple, c'est les relations au quotidien. Ouais ? C'est le manger, c'est le dodo, c'est le sexe, c'est sortir, pas sortir, m'habiller, pas t'habiller. Ça, c'est une partie. Maintenant, on est sûr et certain que quand on se marie, il doit y avoir une symbiose. Les deux doivent aller ensemble pour se rapprocher de Dieu. C'est pour ça que le mari doit conseiller sa femme, il doit l'aider à adorer Allah. Et la femme, elle doit aider l'homme. Le hadith, il dit que le croyant, le matin, il se réveille pour faire la prière. Si sa femme ne veut pas, il la secoue. Elle est morte, elle ne veut pas se réveiller. Il peut l'asperger d'eau, tu vois, pour lui dire réveille-toi. Et puis, il y a le sens contraire. Il y a le mari mskin qui y met. La femme, elle le secoue, elle le réveille, il ne veut pas bouger. Elle ramène un peu d'eau, c'est une image pour dire, tu utilises un moyen pour le réveiller. Donc tu vois, il y a les deux cas. Et puis, comme tu le dis bien, on doit se compléter.
Ouais, mais la foi de l'homme, elle passe avant la foi de la femme. Mais dans les actes, là, on n'a pas à les mélanger les actes, on reste musulman.
La foi, Yahri, c'est quelque chose d'invisible. Et on ne peut pas la mesurer, la quantifier. La foi...
Je dirais que la foi, c'est une question de...
connaissance, cette vision.
Même pas. C'est plus que ça, la foi. C'est sir, un secret entre toi et Dieu. At-taqwa, ha-huna. La crainte de Dieu, elle est ici. Personne ne la voit. Elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas dans ma prière, ni dans mon ramadan. Elle est entre Dieu et moi. C'est vrai qu'elle se traduit en actes, mais les actes en eux-mêmes n'ont aucune valeur si justement la taqwa n'y est pas, la sincérité n'y est pas. Donc la foi, c'est entre Dieu et l'individu. D'accord ? Hna, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons renforcer notre foi en purifiant notre cœur, notre âme, tazkiyat nefs, à travers des pratiques, à travers le zikr. Et comme j'aime bien ma femme, j'ai envie d'aller au paradis avec elle, ben je vais marcher avec elle main dans la main et je vais tout faire pour qu'elle me suive. Et si j'ai de la chance de tomber sur une femme qui est meilleure que moi, je remercie Allah parce qu'il m'a donné un cadeau doublement merveilleux. Et en plus, ben je vais la suivre pour qu'elle me guide au paradis parce qu'elle sera un modèle et un exemple pour moi dans la foi, dans la pratique, dans la religion. Wallahu a'lam.
On va poser une dernière question, Inch'Allah, après on va faire une petite pause pour passer au dernier thème. Est-ce qu'une sœur doit quitter son hijab si le frère l'exige lors de la rencontre ?
La majorité des savants disent niet. Il n'est pas question qu'une femme se dévoile en présence d'un étranger. Et cet homme, tant que ce n'est pas son mari, c'est un étranger. Il n'y en a qu'un qui dit ça, c'est Ibn Hazm, radiyallahu anhu. Il te dit... Les hadiths disent, il y a un hadith qui dit que l'homme doit chercher à voir dans sa femme ce qui le pousse à se marier avec elle. Et c'est pas son visage ni ses mains, pour les savants qui autorisent à la femme de ne pas se voiler les visages et les mains, mais c'est autre chose. Ce sont ses cheveux, ce sont ses tibias, ses jambes. Bref, peu importe. Ici, c'est une interprétation. C'est pas ce que disent la majorité des savants. Et la majorité a raison. La femme doit rester pudique en présence d'un étranger. Et qui vous dit que la personne va se marier avec vous? Imaginez-vous, le frère, il fait 50 sœurs, il fait que ça. Bah oui, subhanallah, tu te dévoiles. On va dire au khur, on va dire au khur. Et dehors, la sœur, quand elle croise le frère, dans quel état elle est? Et le frère, demain, cette sœur, elle va se marier avec quelqu'un. Donc, non, on ne s'en sort plus. Puis même, on va s'arrêter où? Adir qu'on dit que je veux voir ses cheveux, la khur dit que je veux voir autre chose. Non. Il y a des limites, il ne faut pas les dépasser. Et billahi alik, enlève ton voile, vas-y. Et tu crois que c'est ça qui va résoudre les problèmes plus tard dans le couple? Tu sais ce qu'elle va faire? Elle va mettre une perruque, si elle veut t'avoir. Et ça existe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui demande une femme en mariage et qui s'éteint les cheveux, bah, qu'il revienne la voir, ses cheveux déteints. Parce que c'est de la triche. Un mec qui est tout blanc, ses cheveux sont blancs, il est vieux. Il vient, il se teint les cheveux. Elle le voit, elle dit, c'est bon, il est encore jeune, il y a la pêche. C'est de la triche. C'est de la triche. Il y a un homme, je vais raconter une histoire. Je ne sais plus comment il s'appelle, un grand. Alors, il était sur son cheval, il avance, puis il voit une femme. Une lune. Et quand il la voit, ouais, il était chauve. Il avait plus beaucoup de cheveux. Alors quand il la voit, il s'arrête et puis il lui dit « Salam alaikum, alaikum salam ». Il lui dit « Vous êtes marié ou non ?» Elle dit « Non, je ne suis pas marié ». Il lui dit « Ça vous tente le mariage ?» Elle dit « Oui ». Elle dit « Bah, je vous fais la proposition ». Elle lui dit « Oui, mais si tu savais ?» Il lui dit « Si je savais quoi ?» Il lui dit « Bah, si tu savais ce qu'il y a derrière ce voile ?» Elle lui dit « Chino ». Il dit « Bah, il n'y a pas un cheveu, je suis chauve ». Il dit « Bah, alors salam alaikum, je m'en vais ». Il s'en va. Et au moment où il s'en va, elle le rappelle, elle dit « Ah, Jinta, viens ». Lui dit, mes cheveux, je les ai tous. Ils sont jdid. Il lui dit, alors, allez, je t'ai dit ça. Il lui dit, bah écoute, comme toi, tu veux pas d'une femme qui est chauve, bah je veux pas d'un mec qui est chauve. Tu vas voir ailleurs. Allez, pour dire que ce que l'homme, il aime en une femme, la femme aussi, il le recherche dans l'homme. Ouais, ne me dites pas, c'est halal, c'est haram. C'est arrivé, point à la ligne. Maintenant, le reste...
Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions directement, Sama, avant qu'on s'arrête?
On va prendre l'air.
Ouais. On va respirer un petit peu, Inch'Allah.
Juste une question.
D'accord.
le frère il demande si un converti veut se marier avec une sœur convertie, comment ça se passe au niveau des tuteurs? Puis on arrêtera là, inchallah.
L'homme dans le fiqh n'a pas besoin de tuteur. Il est responsable de lui-même à part entière. Sauf si il n'a pas atteint la puberté. Là, il a un tuteur. Dès qu'il est majeur, donc il a dépassé la puberté et qu'il a sa raison, il se marie de lui-même. La femme est toujours soumise à un tuteur. Quel que soit son âge, qu'elle soit jeune fille ou non. Maintenant, vous posez le cas de la femme qui n'a pas de tuteur musulman. D'accord ? On sait très bien que dans la charia, ne peut être tuteur d'un musulman qu'un musulman. Ne peut être tuteur d'une musulmane qu'un musulman. Un non-musulman ne peut pas être tuteur d'un musulman. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes références. Alors cette musulmane qui n'a pas de tuteur musulman, si on était dans une société islamique, le tuteur serait le responsable. Allez, vous savez que dans la société islamique, vous avez une autorité politique, une autorité religieuse. Ouais. Donc le responsable serait l'autorité. Que ce soit le qadi, le juge, que ce soit le maire, ou je ne sais pas qu'est-ce que serait aujourd'hui l'autorité musulmane dans une ville, mais elle aura son tuteur, ouais, l'imam, ou etc. On prend le cas, nous ici en France, on n'a pas de hiérarchie, on n'a pas d'autorité politique religieuse musulmane. À ce moment-là, deux cas de figure. Soit elle prend un tuteur, qui est une autorité reconnue, ouais, l'imam d'une mosquée, un frère da'i, reconnu par la communauté pour son sérieux, sa piété, sa droiture. Ou, l'autre cas de figure, c'est le madhab de l'imam Abu Hanifa, qui dit que dans ce cas, la femme peut être tutrice de sa propre personne. C'est-à-dire qu'elle se marie d'elle-même. D'accord ? Donc vous avez les deux cas de figure. Wallahu a'lam.